Oui, bonjour. Voilà, malgré ce temps de confinement et ces temps très difficiles pour chacun, donc je vais vous prendre en début la prière de Mgr Guidice, qui est un évêque de Lombardie, qui face au coronavirus a écrit à ses fidèles. Voilà, je cite, c'est un extrait. « Je reste à la maison, Seigneur, et dans l'atelier de Joseph, ton gardien et le mien, j'apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie et te préparer une œuvre d'art. Je reste à la maison, Seigneur, et je sais que je ne suis pas seul, parce que Marie, comme toute mère, est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu. Je reste à la maison, Seigneur, et je fais de manière responsable pour mon propre bien. Je le fais de manière responsable pour la santé de ma ville et de mes proches, et pour le bien de mon frère que tu as mis à côté de moi, me demandant de m'en occuper dans le jardin de la vie. Je reste à la maison, Seigneur, et dans le silence de Nazareth, je m'engage à prier, à lire, étudier, méditer, et être utile pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante. Je reste à la maison, Seigneur, et à midi, je recevrai la salutation de l'ange. Je me rendrai utile pour l'amour, en communion avec toi qui t'es fait cher pour habiter parmi nous. Et fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob et assoiffé d'amour sur la croix. Je reste à la maison, Seigneur, je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l'as dit, je suis avec vous tous les jours, oui, et surtout en ces jours de confusion au Seigneur, dans lesquels, si ma présence n'est pas nécessaire, je vais atteindre chacun uniquement avec les ailes de la prière, ainsi soit-il. Voilà, bon, j'en viens au sujet, j'allais dire, ça paraît un peu trivial hein, d'aborder des sujets sur la pollution marine, mais bon, c'est ainsi, donc je continue. Je vais vous parler de la prolifération des méduses, leurs conséquences écologiques et le lien avec la pollution au plastique, dont je parlerai un peu des plastiques. Alors, on peut suivre en direct sur le site meduse.acri.fr, acri, A-C-R-I, la présence de méduses ou non dans les 48 dernières heures sur nos plages en France. Dans l'exemple des méduses non dangereuses, comme Rhizostoma pulmo, j'en ai parlé la dernière fois, qui était apparu sur les côtes de Gironde en août 2018, voilà ce qu'en disait un biologiste de l'aquarium de La Rochelle. Elle représente la nourriture principale, sinon exclusive, des tortues luttes. Quand cette méduse est là, la tortue lutte n'est donc généralement pas loin. Ces méduses apparaissent à la faveur d'un réchauffement de l'eau de surface et à condition que l'océan ne soit pas trop agité. Elles se rapprochent pour se nourrir de plancton. La méduse ne se déplaçant que verticalement, il suffit alors d'un coup de vent ou d'une marée favorable pour qu'elle vienne s'échouer sur la plage. Il n'est pas rare d'en observer plusieurs dizaines prisonnières sur le sable, mais cela pose surtout un souci aux pêcheurs, à qui il arrive d'en remonter 200 ou 300, soit plusieurs tonnes, d'un coup dans leur filet. Fin de citation. Alors pourquoi les méduses prolifèrent-elles? L'étude de leur nutrition fournit des explications. Les méduses mangent énormément, l'équivalent de leur poids tous les jours, à partir de zooplancton animal. Zooplancton animal, ce sont des larves de crustacés, de minuscules crustacés et mollusques, des larves de poissons. Alors, la disponibilité accrue en zooplancton fournit deux explications à leur surpopulation. La pêche élimine les concurrents des méduses pour la nourriture. Les anchois, calmars, sardines, harengs mangent le même type de plancton que les méduses. Plus ces espèces sont pêchées, plus le plancton est accessible pour les méduses. Je donne un exemple d'un effet en cascade. Dans les eaux de Namibie, sur la côte ouest de l'Afrique, la pêche de mérou, merlu, thon s'est intensifiée. Puis leur stock se raréfiant par surpêche, c'est le stock des petits poissons qu'ils mangeaient, anchois et sardines, qui s'est accru. Le stock de ces derniers s'épuisant aussi, deux types de méduses non comestibles ont pris leur place et leur biomasse est trois fois supérieure à celui de poissons comestibles. Tout ça à cause d'une pêche non réglementée. Alors qu'en Afrique du Sud, pays limitrophe appartenant au même courant océanique et où des quotas de pêche ont été instaurés, il n'y a pas de prolifération si forte de méduses. Deuxième explication d'une disponibilité accrue en zooplancton. Les engrais issus de l'agriculture déversés dans les rivières puis dans les eaux côtières sont un véritable festin qui s'offre aux méduses. Lorsque de fortes concentrations d'engrais pénètrent dans l'océan, les populations de plancton et d'algues explosent. Cette prolifération d'algues appauvrit davantage le niveau d'oxygène. Ça provoquait des zones mortes dans lesquelles les poissons survivaient moins bien, alors que les méduses y parvenaient. Alors, ces zones mortes donc leur offrent beaucoup à manger, donc du coup c'est un cercle vicieux, elles augmentent de plus en plus. Et le nombre de zones côtières mortes a doublé depuis les années 60, il a doublé chaque décennie, donc, ça fait beaucoup, et il y a maintenant environ 500 zones mortes. Donc deuxième explication pour expliquer leur prolifération, c'est la baisse des prédateurs, les poissons lunes, thons et tortues. Alors soit parce qu'il y a une surpêche des thons, soit indirectement quand ils sont pris dans des chaluts pour les tortues ou les poissons lunes. Et puis la deuxième chose, c'est que les poissons lunes et les tortues confondent les proies et les sacs plastiques. Autre point sur... L'étude de leur reproduction leur donne aussi des explications sur leur prolifération. Alors, par exemple, les hormones principalement de type féminin, surtout les pilules contraceptives que nos cours d'eau rejettent, toutes n'étant pas retenues par les stations d'épuration ancienne génération. Donc ces hormones perturbent la reproduction sexuée des poissons, mais pas celle non sexuée des méduses. Donc ce qui fait que ça fait exploser la prolifération des méduses. Deuxième point, le réchauffement climatique qui a un effet facilitateur. Au cours des 100 dernières années, la température moyenne à la surface des océans a augmenté de 0,9 degrés. En Méditerranée, c'est même un peu plus. L'année 2018 a été la plus chaude. C'est dû très majoritairement à l'effet de serre et de manière anecdotique, un peu au rejet localisé d'eau chaude par les centrales nucléaires et autres. Le réchauffement climatique rend les hivers moins rigoureux, prolonge l'été, étendant les périodes de développement des méduses et accélérant leur reproduction. Les eaux plus chaudes renferment moins d'oxygène. Cela nuit gravement à de nombreuses créatures marines comme le corail, mais pas aux méduses, bien au contraire. Car aux latitudes moyennes, la température plus élevée de l'eau leur provoque un développement plus rapide des larves de méduses. Et elles profitent de périodes de reproduction plus longues. La conjonction de tous ces phénomènes est une explication très vraisemblable de la disparition de la survenue périodique, en particulier de la méduse en Méditerranée, Pelagia noctiluca, qui était cyclique tous les 12 ans en été et qui, depuis quelques années, arrive tous les ans, été comme hiver. Alors, la Méditerranée et l'Atlantique sont loin des seuls concernés. Des scènes identiques de pullulation existent dans toutes les mers du globe. Des zones entières sont devenues de grands déserts marins où se côtoient des méduses en grand nombre et une faune appauvrie. Alors certains débris plastiques ont aussi un effet facilitateur sur le développement des méduses. C'est une découverte assez récente. La reproduction des méduses est accélérée. Les œufs de méduses qui évoluent en larves se transforment en polypes. Or, les polypes se fixent en priorité sur des débris plastiques comme le polystyrène. Ça a été étudié en particulier à la rade de Villefranche-sur-Mer en Côte d'Azur en 1965 et confirmé depuis par d'autres études. Au point que les scientifiques recommandent l'abandon du polystyrène dans les constructions littorales. Alors, le polystyrène est un plastique dur, cassant, transparent et non recyclable. C'est un produit industriel courant, largement diffusé. On le reconnaît facilement à un blanchiment sur les zones de contrainte avant la rupture. Quand il y a un pictogramme triangulaire sur ce plastique, il est indiqué à l'intérieur du triangle le chiffre 6 ou parfois PS pour les initiales de polystyrène. On distingue trois types de polystyrène. Le polystyrène cristal, qui porte ce nom en raison de son aspect transparent. Il polymérise sous forme de perles à haute température en présence d'un adjuvant plastifiant. C'est un plastique dur utilisé pour de nombreuses boîtes, comme les boîtiers de CD, certains gobelets en plastique ou pots de yaourt. Le polystyrène choc, qui est résistant, capable de supporter des impacts plus forts que le polystyrène normal, il est employé par l'industrie pour des produits rigides, légers et moulés, comme par exemple des bacs à douche. Le polystyrène expansé, très fréquemment utilisé, c'est un matériau qui sert à emballer les appareils sensibles au choc et qui est un très bon isolant thermique pour les plaques de doublage des murs. Hormis les boîtes à œufs en plastique, rappelons-nous, c'est des emballages où ce polystyrène se fragmente puis forme de petites billes qui, par électricité statique, se collent aux doigts. On a tous vécu ça. Autre découverte, il semblerait aussi facile pour les polypes de méduses de s'attacher à des structures artificielles comme des quais ou des plateformes pétrolières, plus que sur le sable ou les rochers des fonds marins. En Méditerranée comme en Atlantique, le plancton qui se rapproche de nos côtes avec le réchauffement des eaux attire les méduses près des côtes, d'où leur impact dans le secteur des loisirs, avec ses fermetures de plages ou du moins des poses de filets pour empêcher le passage des méduses. Il y a des incidences aussi moins connues du grand public, des pertes de poissons dans des fermes aquacoles, des arrêts temporaires de sites industriels, l'exemple d'une centrale nucléaire en Suède en 2013, des Aurélies boucher les arrivées d'eau. Alors maintenant, on va parler de la prolifération des plastiques en mer, et tout ceci est bien sûr un drame. La production de plastique double tous les ans, et chaque année, un tiers de la production pollue la nature parce que les matières plastiques sont jetées n'importe où. Les plastiques sont constitués d'une chaîne de monomères, monomères extraits du pétrole. Les petites perles s'attirent entre elles et sont assemblées pour former des colliers qui forment un polymère. À partir des polymères, on peut donner à la matière obtenue n'importe quelle forme de plastique. Sept types de plastique existent parmi les thermoplastiques de notre usage de vie quotidienne, alimentation, hygiène, et en voici la classification. Pour les bouteilles et pour tout objet plastique, devrait toujours figurer à leur base un petit triangle, pictogramme, avec à l'intérieur soit un des chiffres de 1 à 7, soit les initiales du plastique concerné. Je ne donne que l'exemple des trois types de plastique recyclable à la grande échelle, les autres étant en cours de montée en charge lente de recyclage. Alors, le chiffre PET pour polyéthylène téréphthalate, il est transparent, on voit donc le produit à l'intérieur, il est souple et léger, c'est le cas des bouteilles d'eau plate ou de jus de fruits. Le chiffre 2, ou les initiales PEHD, ou HDPE en anglais, pour polyéthylène haute densité. Il est le plus souvent opaque, rigide et solide. C'est le cas des bouteilles de lait ou certains en plastique, certains sacs plastiques. Alors, ces sacs en plastique qui sont PEHD, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils se froissent facilement sous la main avec un bruit craquant, un toucher mécanique qui revient plus ou moins spontanément à leur forme d'origine. Alors, le chiffre 5, donc troisième type de plastique recyclable, il y a les initiales PP, ou les initiales PP, 5 ou PP, pour polypropylène. Ils conditionnent des aliments, surtout quand ils sont gras, donc par exemple des barquettes de beurre. Alors, comme le plastique est bon marché, moins lourd et cassant que le verre, les débouchés de leur fabrication croissent, et nous, consommateurs, satisfaits aussi de ces mêmes avantages, avons tendance à abuser de leur usage. La bonne nouvelle, c'est qu'une procédure législative européenne vient d'être adoptée, interdisant à partir de 2021 une dizaine de catégories d'articles de plastique à usage unique. Vaisselle en plastique, coton-tige, gobelets, barquettes en polystyrène de la restauration emportée. Certains de ces objets sont recyclables, d'autres non. Maintenant, les mauvaises nouvelles. Que deviennent les plastiques non triés dans les mers et les océans? On estime, selon une évaluation de 2019, que 253 kilos de plastique sont déversés par seconde dans les océans. J'ai fait le calcul, pour notre émission d'une heure, c'est 9100 kilos. Les plastiques, s'ils ne sont pas mis dans nos poubelles standards ou celles destinées au tri, pour les trois types que je viens de décrire, ces plastiques se désagrègent, s'éparpillent dans la nature sous forme de particules de plus en plus petites. D'abord très grosses, puis dites macroscopiques d'une taille inférieure à 25 mm, ensuite microscopiques, inférieur à 5 mm, c'est les microplastiques, ou nanoscopiques, les nanoplastiques, donc encore plus petits. Ces microplastiques constituent un tiers des 8 millions de tonnes rejetées chaque année. Alors, maintenant, d'où viennent ces plastiques? 80% des plastiques des océans viennent de la Terre, sous forme de macro ou microplastiques. 20% viennent des activités touristiques et commerciales en mer. Alors pour les plastiques venant de terre, c'est le plus souvent à partir de déchets sauvages poussés par vents ou pluies qui transmettent ensuite des rivières à la mer. Ils arrivent entiers ou sous forme plus petite, macro ou microplastique. Et sous forme microplastique, cela peut être des poussières urbaines, notamment des poussières de pneus. D'autres plastiques microscopiques venant de terre sont issus de débris ayant passé le filtre des stations d'épuration. Alors, des exemples, ça peut être la dégradation de textiles synthétiques. Hein, on sait tous que par exemple, les polaires, mais aussi d'autres vêtements dans lesquels il y a du polyéthylène, de l'acrylique, de l'élastane, du polyester, tout ça, ça fait des fibres tellement petites qu'elles passent souvent les stations d'épuration, donc au moment des lavages. Ça peut être aussi donc des produits qui ont été ajoutés internationalement, comme des microbilles exfoliants dans des cosmétiques, mais ça a été interdit depuis janvier 2018, ça c'est vraiment une très riche idée. Ou autre chose peu compressible, les agents de lavage dans des détergents. Alors, hormis le vrai savon de Marseille, savon d'Alep ou savon noir, seuls détergents naturels, non vraiment toxiques pour le milieu aquatique, tous les autres détergents sont synthétiques et plus ou moins toxiques, ce qui a amené à légiférer en interdisant depuis 1987 d'utiliser des détergents dont la biodégradabilité est inférieure à 90%. Mais bon, il reste quand même toujours 10%. Enfin, en même temps, tout ne peut pas être lavé au savon cité plus haut. Alors, les microplastiques, voilà. Alors ensuite, chapitre sur les plastiques qui finissent sur les côtes. Dans une étude développée ce mois-ci par une chercheuse australienne qui s'appelle Hardesty, celle-ci estime que 90% des débris plastiques issus du milieu marin s'échoueraient sur la zone littorale terrestre comprise entre 0 et 8 km de l'océan. Son équipe a analysé les débris côtiers tous les 100 km tout autour de l'Australie, c'est grand, le plastique représentant un peu plus de la moitié des déchets. Les plus petites particules apportées de mer par les courants marins et le vent s'accumulent dans les premiers mètres du littoral, tandis que les plus gros déchets jonchent les rivages ou sont transportés plus loin sur la terre ferme jusqu'à ce qu'ils soient piégés par la végétation. On retrouve ainsi 5 fois plus de déchets dans la zone où la végétation commence que dans les derniers premiers mètres, de nombreux déchets restant accrochés dans les branches. Alors, les 4 déchets principaux des rivages inspectés représentent chacun plus de 10% des déchets, c'est-à-dire les bouchons de bouteilles, les couverts, paille, plateaux, les mégots, les bouteilles en plastique. La majorité des autres déchets sont en plastique, sacs, gobelets, tiges de ballon, contenants de restauration rapide, sans compter sur ces petites billes de plastique appelées poétiquement larmes de sirène, qui sont le produit de dégradation de granulés industriels, base du polymère du plastique. Ces petites billes sont présentes sur les plages de toutes les mers du globe. J'ai vu un reportage au Havre. En une heure, ils en avaient recueilli l'équivalent d'un grand verre à pied. Je prends l'exemple de la pollution préoccupante des mégots, car contrairement à ce qu'on croit, il y a du plastique dans les mégots de cigarettes. Parce que dans le filtre, il y a de l'acétate de cellulose, qui est un plastique et qui n'est pas biodégradable. Alors, toutes les cigarettes n'ont pas des filtres. Bon, mais pour les cigarettes qui n'ont pas des filtres, comme pour celles qui en ont, il y a toujours un peu de reste de tabac, donc il y a des produits toxiques qui sont relargués lorsque les mégots se décomposent dans le milieu teinturel. Alors, des publicités pour des filtres prétendus biodégradables n'ont pas fait la preuve de leur véracité, selon l'étude faite par l'INERIS, qui est un institut de surveillance des risques industriels, en 2009. Voilà. Donc, l'INERIS avait fait une étude sur les filières de recyclage des mégots, parce que ça recommence en France, ça démarre très timidement. Il y a 2 entreprises, une qui s'appelle Mégo, près de Brest, et une qui s'appelle Eco-Mégo, à Bordeaux. Il y a du travail, car en France métropolitaine, hors Corse, les ventes annuelles de cigarettes représenteraient 55 milliards d'unités en 2017 et généreraient 10 000 tonnes de mégots, dont la moitié serait jetée partout dans la nature et non dans des poubelles. Donc la moitié, ça voudrait dire 30 milliards. 30 milliards en France. Une étude, j'avais calculé, je crois que je l'avais dit dans une précédente émission, il y en avait à peu près 120 millions dans le Var par an. Une étude en 2014 menée à l'Université technique de Berlin estime qu'un mégot de cigarette peut contaminer jusqu'à 1000 litres d'eau. Les résidus de cigarettes sont composés d'un cocktail d'éléments chimiques, parmi lesquels des métaux lourds, cadmium, chrome, mercure, plomb, du goudron, de la nicotine. Référons-nous à la mission que j'avais faite au début sur la pollution de l'air intérieur et le tabac. Alors, la nicotine est utilisée en tant qu'insecticide depuis le 15e siècle. Son emploi en tant que pesticide est très encadré aux États-Unis, au Canada, en Europe, à cause de sa toxicité sur la biodiversité aquatique. Or, cette molécule est très soluble dans l'eau. En septembre 2017, toujours l'INERIS classe les mégots comme déchets dangereux au titre de leur toxicité aiguë à cause de la nicotine. Un seul mégot peut suffire à décimer la moitié d'une population de poissons nageant dans un litre d'eau, selon des chercheurs de l'Université de San Diego en Californie en 2011. Ils ont fait une étude sur deux variétés de poissons fréquents aux États-Unis. Ils utilisent souvent pour des essais de toxicologie un poisson marin et un poisson d'eau douce, ou fait grâce des noms. La durée de vie des déchets est très variable selon les nombreuses conditions de température, de courant, de salinité ou de composition chimique du milieu aquatique. On peut en donner quand même un ordre d'idée. 6 semaines pour le papier journal, de 1 à 5 mois pour les briques de lait, 1 à 3 ans pour des mégots, une cinquantaine d'années pour des plastiques fins, une à plusieurs centaines d'années pour les polymères comme nos plastiques d'usage courant, ou les cartes téléphoniques, les couches non biodégradables, 200 ans pour les canettes ou les piles, 600 ans pour les lignes de pêche. Donc là, on a parlé des plastiques sur les côtes, maintenant parlons des plastiques qui surnagent dans la colonne d'eau près de la surface. Alors les oiseaux de mer en ingéreraient chaque année autour de 100 tonnes, ce qui n'est rien par rapport à certains poissons. Les fulmars boréaux en mer du Nord sont des bons indicateurs de la pollution au plastique, donc ils sont surveillés pour ça, puisqu'en dehors de la saison de reproduction, ils restent exclusivement en mer où ils se nourrissent près de la surface de l'eau. Or, ils prennent le plastique pour de la nourriture. 95% de ceux qui sont retrouvés morts sur les plages de la mer du Nord ont des déchets dans l'estomac. Ils ont beau avoir l'estomac plein, ils meurent tout de même de faim. S'ils mangent des petits poissons, ils se nourrissent aussi de méduses. Beaucoup d'autres oiseaux subissent les mêmes inconvénients du plastique, comme les albatros. Alors, et pourquoi? Eh bien, à cause de l'odeur du plastique, selon l'observation faite par des chercheurs de Californie, sur plus de 10 000 individus issus de 25 espèces, dont les albatros. Les microplastiques dégagent du sulfure de diméthyle, une molécule produite aussi par la décomposition du plancton. Ce plancton, constitué de petits crustacés comme le krill, naviguant près de la surface, les oiseaux en sont friands. Ce sulfure émet une odeur caractéristique, la même d'ailleurs qui se dégage à la cuisson du chou ou de la betterave. Absent des plastiques vierges, le sulfure de diméthyle apparaît après moins d'un mois en exposition marine à des concentrations détectables par les oiseaux marins. Les espèces qui y sont sensibles ingèrent 5 fois plus de microplastiques que les autres. Quels sont les plastiques qui génèrent ce disulfure? Selon les scientifiques, 3 types de majeurs de plastiques, 2 qui sont d'ailleurs recyclables, le polyéthylène haute densité, PEHD pictogramme 2, le polypropylène pictogramme 5. Un non recyclable, dont je n'ai pas parlé plus haut, c'est le polyéthylène basse densité, le PEBD, dont le pictogramme triangulaire est le chiffre 4. Il est utilisé dans notre vie quotidienne comme ruban adhésif, récipient souple, ketchup, crème hydratante, certaines barquettes, les poches à zip, par exemple du gruyère râpé, hein. Les films alimentaires, les sacs de congélation de poubelle, certains plastiques, et eux, c'est des sacs plastiques qui se froissent sans bruit et se percent facilement avec le doigt, hein, pour les distinguer de ceux qui sont recyclables. Les larves de poissons ingèrent des microplastiques. Les chercheurs d'Hawaï, dans une publication de février 2020, ont observé que 6% des larves de poissons vivant en surface présentaient des particules de microplastiques dans leur estomac avec une préférence pour les plastiques de couleur bleue ou transparent, c'est-à-dire des plastiques qui ressemblent à du plancton. Il est donc probable que les larves de poissons confondent leur proie avec ces particules. Dans des prélèvements d'eau de mer en surface où s'accumulent ces larves, ils ont observé il y a une particule de plastique pour 55 organismes planctoniques. Les planctons dérivent au fil des courants, sont la proie donc des larves, et ainsi les larves ont une chance sur 55 de confondre une proie avec un microplastique. Comme on l'a démontré ces travaux, les larves sont confrontées très tôt à une grande quantité de microplastiques qu'elles peuvent ingérer. Jusqu'à présent, aucune étude n'a démontré une mortalité significative des larves par action de plastique, si cela induit des problèmes dans leur développement.
Cependant, on peut supposer que, comme les adultes, ces microplastiques sont en mesure de bloquer ou de perforer les systèmes digestifs et ou provoquer une malnutrition. En outre, les débris plastiques peuvent contenir des substances toxiques et des perturbateurs endocriniens, ce qui peut avoir une conséquence désastreuse sur le développement de ces larves. Alors, donc toujours sur les plastiques en surface, on s'est aperçu que des plastiques tournaient en rond dans des zones très vastes. Les plastiques qui dérivent à la surface ne représenteraient, d'après les calculs, que 1% de ce qui a été déversé en mer depuis des décennies. Et pourtant, les constats qu'on fait en surface sont impressionnants. Plusieurs multiples expéditions scientifiques depuis 1997 ont permis de dénombrer plusieurs zones gigantesques de plastique qui tournent entre deux eaux. Les appels des gyres, ça évoque les mouvements tournant en rond selon de très grands cercles, la dynamique des courants de surface les faisant converger vers une sorte d'impasse océanographique qui donc font un gros tas. Il existe 5 grandes gyres qui représentent 1990 milliards d'unités en Pacifique Nord, et ça a la taille, tenons-nous bien, à l'heure actuelle, des surfaces réunies de l'Espagne, de la France et de l'Allemagne. Voilà, donc passe de commentaires. C'est le GIR qui a été découvert en premier, qu'on a appelé d'ailleurs 7e continent. Mais il y en a d'autres, hein, qui est à peine moins grand, qui est dans l'océan Indien, 1300 milliards d'unités, une unité de morceaux de plastique. Hein. C'était mieux que détailler ça qu'en tonnes. C'était plus parlant. 930 milliards en Atlantique Nord, 490 milliards en Pacifique Sud et 300 milliards en Atlantique Sud. À noter que les 250 milliards d'unités estimées en Méditerranée ne forment pas un GIR, la Méditerranée étant une mer fermée où la dynamique des courants fait que les amas de plastique sont disséminés. La Méditerranée est pourtant particulièrement polluée car si elle représente 1% de la surface des mers, elle contient 5% des plastiques mondiaux estimés. La Turquie et l'Égypte contribuent fortement à la pollution plastique en Méditerranée. En ce qui concerne l'Égypte, qui importe ou exporte peu de produits plastiques comparativement aux pays européens et à la taille de sa population, l'explication réside principalement dans la faiblesse de ses filières de traitement de déchets et des eaux usées. Alors, autre paragraphe, des plastiques qui sont ingérés par des animaux marins. Pourquoi ? C'est un peu comme pour les oiseaux, on va voir. On a une explication pour des gens choix. Une étude publiée en 2017 par une revue britannique dans sa section sciences biologiques montre que des poissons se nourrissant de phytoplancton ont un attrait pour l'odeur des débris de plastique. Donc ils ont étudié les réactions d'anchois de Californie, cousins des anchois d'Europe, devant divers morceaux de plastique, propres ou couverts d'algues, mais également devant de la vraie nourriture ou une simple odeur de nourriture. Les chercheurs ont constaté que les bancs d'anchois réagissaient à l'odeur des débris de plastique recouverts d'algues en s'agrégeant davantage, de la même façon que lorsqu'ils étaient mis en présence de nourriture ou d'odeur de nourriture. Cependant, ils ne réagissent pas face aux débris de plastique propres. Cette étude apporte des preuves que la signature chimique acquise par des débris en mer peut expliquer pourquoi certaines espèces sont prédisposées à confondre du plastique avec de la nourriture. Un mécanisme chimio-sensoriel les induirait donc en erreur. Alors, quelle que soit la cause exacte, près de 2000 organismes marins différents sont affectés par des déchets plastiques partout dans le monde, dont certains font partie des espèces en danger. D'abord les plus gros, les mammifères marins, c'est-à-dire baleines, cachalots, dauphins, phoques, puis les tortues qui se prennent dans des filets dérivants abandonnés ou lors du chalutage commercial de la pêche, ou qui aussi confondent sacs plastiques et nourriture, ce qui les asphyxie. D'ailleurs, la tortue kawan est particulièrement suivie en Méditerranée. Elle est considérée comme un marqueur scientifique de l'évolution de la pollution plastique dans cette mer, selon les conclusions de l'expédition TARA. Alors pour les moules, j'ai détaillé dans une émission précédente, on avait trouvé dans cette expérience 60% d'échantillons positifs, c'est-à-dire contenant du plastique. Pour les poissons, en 2011, Davidson observer du plastique dans des petits poissons pélagiques. Pélagiques, c'est proche de la surface. pêchés à proximité du gigantesque gyre de Pacifique Nord. Et par des expériences successives, ils ont estimé que le temps de résistance du plastique dans l'intestin de ces petits poissons était de un jour à un an. Donc ça dépend quand est-ce qu'on les mange. En 2013, deux Anglais, Lucher et McHugh, ont prouvé l'ingestion de microplastiques de 1 à 2 mm chez 10 espèces de poissons pêchés en manche, donc on se rapproche. 5 espèces de poissons pélagiques et 5 vivants près du fond, on appelle des espèces démersales. Donc elles ont été sélectionnées, sur les 10 espèces, 8 sont consommées par l'homme. Environ 500 poissons différents ont été prélevés au large du Plymouth, qui est très proche des côtes britanniques, hein, pour observation du test du tube digestif au microscope. Donc ils ont trouvé de 1 à 15 microplastiques, donc une moyenne de 2, c'est plus d'un tiers des poissons. Pourcentage comparable à celui observé dans d'autres études dans le Pacifique ou sur les côtes du Brésil. Ces deux espèces, le merlan bleu ou le grondin rouge, cette proportion dépasse 50%, alors qu'elle est par exemple de 20% pour certaines soles. En Europe, la France est le pays qui pêche le plus le merlan bleu, et le grondin, 4 fois moins pêché, est souvent utilisé dans des soupes. On doit ingurgiter donc un peu de plastique quand on mange des grondins venant de la Manche. Les microplastiques identifiés ont été faits par spectroscopie infrarouge, je vais y arriver. Donc soit des fibres de polymères semi-synthétiques à base de cellulose, plus ou moins biodégradables avec le temps, comme le rayon ou viscose, qui proviendraient également de fibres de vêtements, de produits d'hygiène féminine, ayant passé donc le barrage des stations d'épuration. Et le reste, donc là c'est 58%, des polymères synthétiques non dégradables, comme du polyamide, du polyester, du polystyrène. Polyamide et polyester seraient issus de l'industrie de la pêche, et le polystyrène provient des, on l'a déjà parlé, mais en particulier aussi des barquettes de stockage de poissons. Le nombre de morceaux observés dans chaque animal est faible. Il ne concerne que les fragments compris entre 1 et 2 mm. Les nanoplastiques de taille inférieure ne sont pas pris en compte dans cette étude. Or, ce sont ces nanoplastiques qui sont susceptibles de passer les barrières biologiques et de favoriser le transfert des contaminants vers les fuites biologiques, notamment le sang, voire le cerveau. Bien que le tube digestif, estomac et intestin de ces poissons ne soient pas consommés, la question du transfert potentiel vers d'autres organes se pose, d'une part à cause de contaminants chimiques de synthèse, plastifiants, retardateurs de flamme, d'autre part à cause de substances qui y sont absorbées et concentrées, comme des hydrocarbures, lors du dégazage illégal ou pire, de marée noire. En 2019, on a apporté la preuve que pas moins de 2/3 de 391 espèces examinées de poissons commerciaux. Donc, deux tiers, ça fait à peu près 260, hein. Ingère des espèces de poissons commerciaux, ingère des microplastiques, sachant que ces taux sont sous-estimés en raison du faible effort d'échantillonnage et de méthodes analytiques encore imparfaites. Certains de ces organismes font partie des espèces en danger à cause du plastique leur de leur nourriture et de leur pêche par erreur à l'occasion de salutage pour des espèces commercialisables. Or, d'autres plastiques se dégradent progressivement. Les plastiques plus ou moins petits qui ne stagnent pas en surface ou consommés par différents oiseaux ou animaux marins sont dégradés dans la colonne d'eau sous forme de microplastiques, voire de plus petits, de nanoplastiques. Alors, ce sont des dégradations physiques par les vagues, la température, les ultraviolets ou chimiques par oxydation ou hydrolyse, par des produits qui existent dans l'eau de mer, qui vont contribuer à fragiliser les structures des polymères et réduire le plastique en morceaux de plus. Une dégradation biologique intervient ensuite avec 4 étapes, ce qui fait que les plastiques flottants ou en suspension dans l'eau finissent par libérer différentes molécules organiques dans l'eau. Ceci a été démontré pour le polytéréphthalate d'éthylène, pictogramme 1, le polyéthylène, pictogramme 2, le polypropylène, pictogramme 5, et le polystyrène, pictogramme 6. Donc, si dans l'eau, après quelques jours à la lumière ultraviolette, en particulier les UVB, libèrent des molécules de bas poids moléculaire supposées être des produits de dégradation de ces polymères. En 2018, on a identifié au laboratoire 22 de ces produits de dégradation libérés par 4 types de plastique. Certains sont-ils toxiques pour le milieu marin ou pour l'homme? Il y a encore beaucoup de travail scientifique à faire. Dans le même temps, plus ou moins vite selon les contextes, ils se brisent en fragments de plus en plus petits. Même des plastiques très denses et durs, et chimiquement traités contre les ultraviolets par l'ajout d'additifs, ne devraient pas résister à l'abrasion. Pourtant, on trouve toujours des plastiques dans les colonnes d'eau, peut-être, sûrement d'ailleurs, parce que les processus lents de dégradation sont dépassés par les afflux continus. En effet, des scientifiques de l'Institut de recherche de l'Aquarium de Monterey en Californie ont utilisé dans la baie de Monterey un robot subaquatique, alors ça c'est intéressant, pour analyser des litres d'eau de mer à des profondeurs de 5 mètres à 1000 mètres. À 25 km de la côte, ils ont montré que c'est à la profondeur de moins 200 à moins 600 mètres, il y a le plus de bas de plastique. Près de 15 morceaux de plastique par litre d'eau. Ce sont 4 fois plus de plastique que ce qui a été trouvé dans les échantillons de surface, mais une quantité similaire à la quantité trouvée à la surface des gyres. Tous les échantillons en contenaient jusqu'à 1 km de profondeur, profondeur limite de l'étude. Le plastique trouvé dans la baie de Monterey ne ressemblait pas au plastique utilisé dans l'équipement de pêche locale, mais était principalement du PET, donc polymère 1, qui a un chiffre 1, utilisé donc dans les bouteilles jetables, indiquant qu'il provenait vraisemblablement de la Terre. Alors que dire des nanoplastiques? Une étude en 2014 a montré que le nanopolystyrène, donc le polystyrène tout petit, pictogramme 6, inhibe la croissance et la concentration de chlorophylle d'une algue verte et la reproduction d'un petit crustacé, le Daphnia magna. C'est des découvertes biologiques, sur les incidences chez l'homme, je ne sais pas. Enfin, du moins, ça n'a pas été étudié. La recherche donc sur les nanoplastiques est en fait assez balbutiement. Les tests de laboratoire montrent que contrairement aux microplastiques, ils sont suffisamment petits donc pour pouvoir s'accumuler dans les courants sanguins, moi j'ai déjà dit, et atteindre même le cerveau. En particulier, de petits poissons nommés médacas, qui sont très utilisés de longue date pour les expériences à laboratoire. C'est un poisson d'origine asiatique. Qui résiste beaucoup au froid, qui est transporté facilement, qui a une courte vie, qui est très prolifique, qui est transparent, donc qui facilite les observations de son développement embryonnaire. Donc c'est pour ça que ce poisson médaca est très utilisé en labo. Et à l'intérieur de ces poissons médaca, on a découvert des nanoplastiques. Et qu'on pense qu'ils provoquent des dommages neurologiques et des anomalies de la reproduction. Donc, pour l'instant, on n'est pas à l'homme, mais on voit qu'on s'approche biologiquement du problème. Alors, autre point qui peut poser question, y a-t-il une dégradation par des bactéries spécialisées dans le milieu marin? C'est le but des recherches pour essayer de limiter le plastique. Alors, les études faites par l'expédition Tara n'ont pas pu isoler vraiment de bactéries spécifiques. Par contre, les Japonais, en 2016, ont récolté dans une décharge, donc en dehors du milieu marin, des échantillons de sol contaminés depuis des années par du PET, hein, pictogramme 1, dans une usine de recyclage de PET. Cette équipe a isolé une bactérie, je fais grâce du nom, qui se lie au PET avec des fils semblables à des vrilles. Cette bactérie utilise ensuite deux enzymes pour décomposer le PET en deux des substances avec lesquelles ils sont l'origine. Alors, un chercheur allemand a depuis dit, je cite, « Nous devons améliorer la bactérie pour la rendre plus puissante. Le génie génétique pourrait être applicable ici. Une façon d'accélérer les choses serait de transférer les gènes qui fabriquent les deux enzymes dans une bactérie à croissance plus rapide comme Escherichia coli. » Bon, qui est bien connu. Donc, une équipe l'expérimente déjà. Parce qu'en fait, le problème de cette bactérie découverte par les Japonais, c'est que ça grignote un petit peu le plastique, mais il faut 6 semaines à 30 degrés pour dégrader l'équivalent de la taille d'un pouce. Donc on voit que c'est absolument ridicule. Enfin ridicule, pas grand-chose. C'est des conditions d'expérience terrestre, donc c'est pas un milieu marin, à une température élevée à 30 degrés. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Alors, que penser des sacs dits écologiques? La première génération de sacs écologiques, il y a 5 ans, fut celle des sacs oxodégradables. Bon, on les appelait comme ça parce qu'on avait rajouté au polymère un additif qui était un sel de métal, fer, manganèse ou cobalt, qui permettait de dégrader plus vite le plastique. Mais certes, il se dégradait en quelques mois, mais c'était toujours du plastique avec des métaux dessus. Donc, le législateur, en particulier en France, a décidé en 2017 de l'interdire, hein, de ce plastique soi-disant bio, dit oxodégradable. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. À sa place, ont été développées de nouvelles technologies de plastique dit bio, mais ça pose d'autres problèmes. Ce sont des plastiques, des sacs hydrobiodégradables, ou sacs biosourcés. Ils utilisent des ressources végétales comme l'amidon végétal de pommes de terre ou de maïs. Le problème, qui est d'ailleurs sans solution, c'est qu'il faut utiliser des terres agricoles qui ne sont pas disponibles pour nourrir, or les besoins sont réels.